Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 403. Nous sommes le 31 août 2021 et voilà, en pleine forme, prêt à attaquer cette nouvelle saison tech vraiment dans les starting blocks, comme on dit. Pour ce faire, nous sommes trois avec Mike qui est là, tout tranquille, qui a l'air de bien se porter. Tu as l'air sage, Mike, tu as l'air d'avoir compris des choses.
Andy, je suis moins excité qu'avant. Ça ne veut pas dire que je ne m'excite pas pendant la journée et que j'ai toujours des faiblesses, mais c'est moins fréquent qu'avant, on va dire. Donc, tout va bien. Non, j'ai eu une journée chargée aujourd'hui. Donc, c'est toujours ça. Je suis un peu, des fois, fatigué. Mais quand Niptech commence, hop, la fatigue s'évapore, comme ça fait plaisir. Donc, je suis très content d'être là pour parler tech. Et puis, voilà, j'y aurai sûrement plein de choses à dire.
C'est clair. Et fraîchement sorti de sa salle d'examen, porté par le succès comme ça, triomphant, Baptiste est avec nous.
Salut Ben, salut Mike. Oui, j'ai fini, je suis libre. Et du coup, quoi de mieux pour fêter ça qu'un épisode de Niptech avec vous? Je ne sais pas, je ne vois pas.
On est d'accord. On est tous à l'eau en plus, comme ça. Donc, on est vraiment, on y va à fond. Il n'y a pas de limite. Parce que aussi, ben voilà, y a plein de nouvelles intéressantes qui sont arrivées. On voit qu'on est sorti un petit peu de la période estivale. Alors, on va commencer par un thème, je crois, qui nous intéresse tous pour plein de raisons différentes, en fait. C'est les Tesla AI Day qui ont eu lieu récemment. Alors, vous avez pu voir un petit peu passer les nouvelles. Hein. Évidemment, ils ont parlé de voitures, de conduite autonome. Ils ont aussi parlé de robots, hein, avec un succès mitigé, on va en parler un petit peu plus. Et puis, bah, finalement, on va se poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle, tout public, enfin, tout usage versus les applications vraiment spécifiques et idem pour robotique, qu'est-ce qui est le mieux? Mais pour nous donner quand même un aperçu de la situation, Baptiste, c'est toi qui arrives à comprendre, parce que pour comprendre le cerveau d'Elon Musk, bah, il faut être à l'ETH de Zurich, quoi. Sinon on n'y arrive
ça,
pas.
C'est clair.
C'est amusant que tu dises ça, parce que tu vois, en général, les conférences tech, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Tu sais, maintenant, surtout, par exemple, les conférences d'Apple, c'est vraiment des shows qui sont organisées à l'avance. Même les événements un peu avant, tu vois, les événements presse, c'est toujours des choses assez mainstream où on te donne les éléments de langage et où c'est assez aseptisé, tu vois, et très simple. Là, Tesla, c'est à peu près ça. Et ben, tu prends l'exact opposé. En gros, leur but, c'est beaucoup plus, ils ne le disent pas vraiment Tesla, mais dans la presse, ça sort beaucoup. C'est beaucoup plus presque des événements pour recruter et pour montrer leur technologie que, tu vois, pour communiquer avec le grand public. C'est pour ça que la conférence, si tu veux, il y avait trois grosses parties. La première, ils expliquaient le soft qu'ils utilisent pour faire tourner leur voiture. Donc, et là, vraiment, en allant dans les détails, tu vois, c'est vraiment très, très technique. Et même moi, globalement, j'étudie ça. Il y a beaucoup, beaucoup que tu ne comprends pas parce que c'est juste. C'est beaucoup de domaines différents qui mettent ensemble, donc c'est assez compliqué. Tu vois, d'ailleurs, le nombre d'ingénieurs qui se vont sur scène, je ne pense pas qu'un ingénieur pourrait te faire toute la présentation, tu vois, le niveau. Ensuite, il y a une partie qui était assez à laquelle je ne m'attendais pas sur le hardware, parce que ce qui se passe, c'est que Tesla, ils ont des modèles de machine learning qui sont tellement compliqués qu'ils développent eux-mêmes du hardware pour les entraîner. Et ça, c'est assez fou, parce que pour situer, le hardware, c'est vraiment quelque chose, ça coûte très cher, c'est compliqué. Et en général, ce que tu essayes de faire, ben, c'est de prendre le même hardware que les autres. Comme ça, il n'y a besoin de le développer qu'une fois, c'est plus simple, c'est moins cher. Et là, il semblerait qu'ils ont des besoins tellement spécifiques et énormes qu'ils le font eux-mêmes. Donc ça, je trouvais assez impressionnant. Et à la fin, quand même, pour tous les geeks, même s'ils ne sont peut-être pas à fond dans la technique, qu'ils soient quand même contents, il y a Elon Musk, il est venu sur scène, il a ramené un robot. Donc c'était alors pendant la conférence, c'était un mannequin, tu sais, comme ce robot russe il y a quelques années. En gros, c'était un mannequin déguisé avec un robot Tesla. Mais Elon Musk disait que oui, on va le faire, ça va être un vrai robot, parce que finalement, on fait de l'AI pour les voitures, donc l'AI pour les robots, ça va être pareil. C'est un robot, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un robot à deux pattes. Enfin, un bipède, quoi, un humanoïde, qui ferait, il a dit 1m70, qui sera, je ne sais pas, genre 70 ou 80 kilos, parce qu'évidemment, ils le disent en livres, et donc il faut convertir. Et attends, il disait quoi d'autre encore? Ah oui, il disait aussi qu'il pourra pas avancer à plus que 5 km/h. Comme ça, on pourra le courir pour pas qu'il puisse nous courir après et nous tuer. Fantastique.
Oui, c'est vrai que si tu n'arrives pas à être à 5 km/h en même temps, c'est que ton heure est arrivée, quoi. Parce que voilà, quand tu traînes la patte.
J'ai une question. Est-ce que ce robot pourrait aussi défendre ta maison, où il n'y a pas du tout d'usage de self-défense à l'intérieur de ta maison?
De ce qu'il montrait, j'ai du mal à voir. Enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est un. En fait, et on va y venir plus tard, ça va être intéressant, mais c'est un robot bipède. Et donc, c'est un peu comme un humain finalement. Il sait faire des choses. Il sait, si il est très bon, il saura faire plein de choses. mais il sera master of none, si tu veux. Tu vois, quand on a développé un robot aspirateur, on ne s'est pas dit, on va faire un truc à deux pattes qui passe l'aspirateur. Tu vois, on s'est dit, pourquoi pas, on fait un petit galet qui se balade. Ben là, c'est un peu la même chose. Finalement. Peut-être il sera bon pour défendre ta maison et aussi passer l'aspirateur, mais est-ce qu'il sera excellent dans les deux? Ah. Sûrement pas.
Mais bon, revenons effectivement un petit peu au début, parce que bon, c'est peut-être un petit peu aussi la difficulté quand tu es dans le grand public avec Tesla, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils disent qu'ils arrivent maintenant enfin à la conduite pleinement autonome, que toi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut... Bah, là, il annonce rien de plus pour moi. Toi, il dit, on fait un continu des pas dans la conduite autonome. Pourquoi est-ce qu'il y a un progrès finalement, vu qu'il devrait déjà y être?
En effet, c'est... Complètement d'accord. Il y a pas, tu vois, il montrait pas un truc où il disait on fait mieux qu'avant. C'est juste il progresse, il continue de progresser. Il y a 2 ans, Elon Musk il disait dans 1 an on aura 1 million de taxis autonomes sur les routes. Bon, ils sont pas vraiment là. Mais et donc d'un point de vue, si tu veux effectivement grand public, c'est décevant. D'autant et c'est là que tu te rends compte d'ailleurs que dans les grands médias en fait, les seules choses qui transparaissent de la conférence, c'est cette histoire de robots parce que finalement du reste de la conférence, il y a pas grand chose de nouveau. Tu vois, et si tu synthétises tout, ben il reste plus rien. Peut-être si on veut aller un peu plus dans la partie technique, je pense que ce qui était vraiment intéressant, et s'il y a une chose qu'on peut retenir et qui est quand même, je pense, intéressante à faire passer, c'est l'idée que Tesla, ce qu'ils veulent faire, c'est une intelligence artificielle qui est générale. C'est-à-dire que, enfin, générale dans le sens où ils veulent vraiment un modèle, un algorithme de machine learning qui sont entraînés, ils disent end-to-end, et donc tu lui donnes en entrée les caméras de la voiture, et en sortie, il te dit, OK, tu tournes le volant à gauche, à droite, tu accélères, tu freines. Et uniquement ça. Et ça, c'est assez impressionnant par rapport à ce que d'autres sociétés veulent faire. Parce qu'en gros, pour d'autres, genre Waymo et ce genre d'entreprises, même s'ils ne communiquent pas autant, on a quand même l'impression qu'ils ont, une vision beaucoup plus réaliste où ils essayent de développer des algorithmes différents qu'ils emboîtent ensuite ensemble. Alors que Tesla, ils ont vraiment cette vision beaucoup plus de « on peut faire un algorithme qui fait tout de bout en bout ». Et ça, c'est leur pari. Si ça marche, ce sera assez incroyable. Mais... je dirais quand même qu'aujourd'hui, on n'a pas la preuve, tu vois, que ça a marché.
Bon, c'est vrai qu'on revient exactement à ce que tu disais pour le robot. Hein. Puis c'est peut-être un peu la façon de regarder Tesla, c'est que le général, en général, n'a pas bien marché. Alors, l'exemple qu'on prend, qui a été encore dans les nouvelles récemment, c'est Boston Dynamics, parce qu'ils font le robot humanoïde là, qui fait une sorte de parcours de gym assez hallucinant, c'est vrai. Mais l'analyse, c'est oui, il est hallucinant. Oui, il peut courir et faire des trucs fous, à part que personne n'a besoin d'un robot qui fait ça. alors oui, il est peut-être général, toi, mais et c'est vraiment... je pense que c'est un peu le Graal. Et de nouveau, respect pour la vision de Musk qui, toi, ne s'arrête pas en chemin. Mais de nouveau, moi, ça me semble, en tout cas de ce qu'on voit et pour les 5 à 10 ans à venir, vraiment quelque chose de très, très, très difficile commercialement, hein, sans même parler du niveau technique. Mike, toi, t'es un peu exposé au monde de la robotique. Comment tu vois cette question un petit peu générale versus particulier?
Oui, c'est vrai que dans le domaine où je suis, qui est l'électroménager, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce Saint Graal de tout automatiser. Et puis de dire, voilà, tu te dis, ah ouais, justement, on va le robot aspirateur. Oui, mais le robot aspirateur, tu en as un, mais souvent, tu as quand même besoin d'un autre robot aspirateur qui s'appelle toi et ta main pour faire les escaliers ou faire les petits trucs dans le coin, parce que le robot aspirateur, il ne fait pas tout. Puis on dit toujours, oui, mais il va, un jour, il fera. Et voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a des robots qui ont fonctionné, comme le robot aspirateur, ça, c'est une très, très bonne question, très, très bon exemple, pardon, qui fonctionne pour une utilisation, mais tu as quand même besoin de quelque chose d'appoint. Après, il y a d'autres choses qui existent où on fait croire au Saint Graal aux gens. Il y en avait un qui s'appelait Foldimate ou l'Android. Alors, leur explication, c'était on va plier tout dans le monde. Donc, tu prendras tes habits, tu vois, chose que tu détestes faire, laver, sécher, puis repasser et puis après, plier.
Carrément, laver
un cuir. Ça c'était cool. L'Android. C'était une boîte qui a été financée par Panasonic. Hein. Je vous mettrai un lien dans les show notes. Et qui était quand même bien, puis qui essayait de se développer, qui essayait de tout faire en un. Et c'est très difficile à faire. Il y en avait une autre qui s'appelait Foldimate. Malheureusement, elle vient d'arrêter très récemment.
C'était déjà avant, non?
Oui, ça existait déjà avant. Où leur but était de dire, on va plier les habits. Mais quand ça te prend plus de temps de mettre l'habit dans la machine que de le plier, je veux dire, ça sert à rien. Vous connaissez la rule de Google, ça doit être au minimum 10 fois meilleur et 10 fois moins cher, sinon les gens ne le veulent pas. Donc, il y a ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est que la spécialisation, elle ne fonctionne pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir? plein de machines qui feront une tâche dans ta maison ou un robot qui utilisera tes machines pour faire plein de tâches. Et moi, j'ai tendance à dire, en tout cas, moi, ce que j'aimerais dans ma maison, c'est un robot qui puisse utiliser mes machines. Pourquoi ? Parce que je n'aurais pas besoin d'avoir une machine par fonction. Quand vous pliez des habits, OK, vous pourrez dire, ah ouais, je vais avoir une nappe pliante, mais je veux dire, déjà, c'est complexe, c'est très gros. Et puis, combien de t-shirts vous pliez par semaine ? Vous voyez, vous n'êtes pas un professionnel du pliage de t-shirts non plus. Donc, il y a un peu ce domaine-là où c'est pour ça que je crois beaucoup à la solution de notre très cher Elon Musk, qui est le robot qui ne fera pas tout génialement, mais qui copiera assez bien les gestes de l'humain pour pouvoir faire toutes ces tâches que l'humain ne veut pas faire.
Bon, en tout cas, le truc où tu as raison, c'est que moi, c'est exactement la raison pourquoi je n'ai pas un de ces petits robots, parce que alors, je suis typiquement le public cible, parce que rien que ça m'amuse, toi. Le fait d'avoir un petit robot qui se promène puis qui aspire, je trouve ça cool. Mais comme tu dis, moi, si je dois faire 10%, la charge mentale, c'est la même. Je dois le faire, toi. Donc, à un moment, ce n'est pas le temps. C'est de me dire, je dois le faire. Je veux qu'on m'élimine ce truc que je n'y pense plus jamais de ma vie. Alors là, ouais, je suis prêt à payer. Mmh. Mais si je dois quand même y penser, je ne suis pas une demi-heure prêt pour le reste, quoi.
Bon, je ne peux pas dire que ça ne marche pas parce que c'est un des produits les plus vendus sur Amazon lors de Black Friday, les iRobot. Je veux dire, c'est quelque chose qui a un succès phénoménal. Je veux dire, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est toujours un truc d'appoint. Tu finis toujours par en avoir un petit dans le coin, en tout cas.
Ouais, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, le côté tout faire, je voyais plus ça peut-être au niveau industriel. Tu vois, tu t'en fiches. Tu veux faire un truc, mais tu le fais à la chaîne, puis bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé au côté personnel où effectivement, déjà, tu n'as pas la place, tu n'as pas envie. Écoute, pourquoi pas ? Je suis passé de « en tout cas pas » à « pourquoi pas » après ton intervention.
Je voulais dire un autre truc que j'ai vu cette semaine, qu'on m'a montré, que j'ai trouvé assez génial. Est-ce que vous connaissez le Chinese fabricant de automaker, donc le fabricant de voitures, qui s'appelle GAC Ion ? GAC Ion, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas moi personnellement je ne connaissais pas, et il vient de sortir une batterie, attention, vous êtes prêts, 1000 km d'autonomie et recharger 100% en ce qu'il dit 10 minutes. Voilà. Donc là, on est dans un monde où 1000 km, ça devient vraiment, vraiment conséquent. Je crois que Tesla, c'est 600, hein, si je ne me trompe pas, ou 400 ou 600, je ne me souviens plus, d'autonomie. Et là, est aussi rechargeable en 10 minutes. Donc ça, ça devient presque autonome.
Ouais, là, alors écoute, le côté rechargé en peu de temps, on le voit, hein, il y a les superchargeurs, ta Tesla, elle est remplie en un quart d'heure. Pas à 100%, mais tu arrives à 90%. Voilà. Le problème, c'est l'infrastructure. Parce qu'il faut balancer. Il faut balancer. Alors, je me confonds toujours mes watts et mes volts. Mais bref, il faut des gros tuyaux. Et ça, typiquement, dans ta place de parc devant la maison, tu n'as pas. Hein, ni devant le bureau, tu n'auras pas. Donc, je pense que je suis curieux de voir. Je crois volontiers que tu peux le faire, mais je suis curieux de voir dans quelles conditions et où en Europe on pourrait avoir ça. Mais bref, ça reste intéressant. Et puis, ça reste de toute manière un enjeu de pouvoir recharger rapidement les voitures électriques. Intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de GAC Ion. Est-ce qu'ils sont que en Chine ou on peut en acheter en Europe, tu sais?
Écoute, pour l'instant, j'ai vu, ils ont commencé avec une voiture, ils doivent la montrer, je ne sais pas si elle est encore dans le commerce déjà. Mais ils disent que voilà, non seulement ça, mais aussi la voiture est capable de continuer sur 1 million de kilomètres. Donc sans avoir des problèmes de batterie et choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans des durées qui sont assez phénoménales. Qui sont assez cool. Donc, je pense que Tesla, ils ont…
Après, je pense qu'il faut quand même se méfier quand on parle de ces histoires de batterie et de voiture. Je pense, tu vois, tu dois que juger ce qui est actuel, ce qui est sur le marché, vendu, tu vois, en grande quantité. Ouais. Parce que le souci, il est aussi que quand tu parles, il y a beaucoup, beaucoup de technologies de batterie qui sont faites aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques années, l'idée des technologies de batterie, c'était dans 5 ans, on aura un nouvel alliage et ce sera 50 fois mieux sur tous les domaines. Maintenant, on s'est un peu rendu compte que ces trucs magiques, ça ne marchait pas. Par contre, on se rend compte qu'on a des nouvelles alliances de matériaux. Les batteries qu'on a aujourd'hui, c'est lithium, ion, il y a un peu de cobalt, un peu de ceci, de cela. Donc, et en fait, en changeant un peu les proportions, en changeant un des composants, on peut avoir 10% de mieux là, 10% de mieux là. Peut-être les coûts sont meilleurs et tu peux optimiser plein de paramètres comme ça. Mais le souci, c'est que entre l'annonce, tu as la théorie et la pratique, tu vois, Tesla, ça fait… ils ont aussi dit qu'ils ont leur nouvelle batterie qui seront deux fois mieux, machin. tant qu'elles ne sont pas sur le marché, c'est dur de juger, c'est dur de comparer parce qu'encore une fois, on compare ce qui est sur le marché aujourd'hui et ce qui le sera dans 5 ans. Et c'est vraiment pas, tu vois, c'est difficile de faire ces comparaisons.
Et d'ailleurs, quand tu regardes, hein, si tu regardes un peu les specs de ce qu'ils vendent, le modèle qui a l'air d'être vendu, alors je n'ai pas regardé en détail, vous corrigerez sur Twitter si besoin, mais il fait 600 km d'autonomie. Et puis, les prix, c'est intéressant, c'est les prix chinois, c'est pas cher. Après, ça dépend des options que tu veux, mais mettons entre 30 et 40 000 $. Alors, c'est pas cher. Pour la Chine, c'est cher, mais pas pour tout le monde, on va dire, en Chine. Par contre, la batterie, ouais, c'est tout ce qui m'attend, en tout cas, sur le marché, c'est le lithium. Donc, mais intéressant, c'est toujours cool de voir des nouveaux entrants. Et puis, c'est
ça commence à être vendu en septembre
2021.
Ouais. OK.
Super donc, intéressant. Bon, bah, écoute, on suivra avec intérêt ce qui se passe. Bon, puisqu'on est en Chine, restons en Chine. On aime bien. Alors, on ne comprend pas tout. C'est clair, mais on aime bien. C'est marrant parce que alors ça, par rapport au début de Niptech, je pense qu'on a dû passer 100 ou 200 épisodes sans parler de Chine. Oui. Et puis là, sincèrement, je serais surpris si on n'en parle pas. Peut-être pas tous les épisodes, mais un sur deux minimum. Hein. Donc, voilà, bon, c'est normal, hein, on est avec notre temps. Mais bon, intéressant. Et une chose qu'on voulait suivre, c'est qu'il y a quand même eu un petit, serrage de vis de la part d'Amazon avec les fausses revues. On en avait déjà parlé, mais je trouvais intéressant de faire le suivi, Mike, parce que toi, tu suis aussi ça d'assez près.
Oui, oui, c'était un article que je trouvais assez intéressant dans Bloomberg. Encore merci notre ami Benedict Evans. Alors, sa newsletter est vraiment incroyable. Je vous dis à tous de vous abonner en fermant les yeux et la lire religieusement chaque semaine. C'est tellement cool. Et puis, il expliquait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait pas mal maintenant avec le Amazon Fulfillment, surtout aux États-Unis, qui peut stocker ton produit, qui peut aussi le revendre, qui peut faire le service après-vente, c'est-à-dire l'échanger, hein, ça, c'est ça le service après-vente pour Amazon, le fulfillment. Donc, beaucoup d'entreprises chinoises ont commencé à vendre directement depuis les factories. Donc, directement des produits qui pouvaient produire très rapidement et ou d'autres mieux le vendre que sur Amazon en direct, hein, et à travers Amazon Fulfillment, la marketplace. Donc, où on paye, je crois que c'est 8 ou 15%, je ne me souviens plus, je devrais savoir. Non, je crois que c'est 11, entre 10 et 15% le coût que ça coûte sur la marketplace, peut-être plus si on demande des services. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'on se souvient, hein, ces espèces de forms à reviews qu'on avait vues pour les apps en Chine. Peut-être que vous aviez vu passer cette vidéo qui était assez incroyable, on voyait des milliers. Ben, il semblerait qu'il y avait aussi ce genre d'utilisation et de fraude à la review sur Amazon. Le problématique, on en a déjà parlé, hein, c'est que Amazon est responsable de ce qu'ils vendent sur sa plateforme. Il y avait des gens qui fakaient des reviews pour pouvoir vendre plus rapidement. Et il y avait des problèmes de produits et des problèmes de sécurité. Je crois qu'il y a eu aussi des plaintes des consommateurs américains. Et donc, ils ont dû sévir. Et du jour au lendemain, ils ont analysé tous ceux qui avaient fait des fausses reviews parce qu'ils arrivent à le voir, hein, plus ou moins. Et ils ont dégagé tous les sellers. Et une fois qu'on a fait une fausse review, c'est extrêmement dur de revenir comme un seller sur Amazon. Donc, on parle de boîtes, mais assez gigantissimes en Chine, qui étaient là, qui vendaient énormément de produits. Je parle de centaines de millions de dollars de produits. Hein, pour
ah ouais, d'accord. Ouais.
Comme des chargeurs de téléphone, des trucs tu vois, qui se vendent très, très facilement. Et du jour au lendemain, qui ne sont plus sur la plateforme et qui vendent zéro. Donc, déjà, il expliquait que Walmart n'a pas du tout, même qu'ils ont une marketplace, c'est très difficile à vendre par rapport à Amazon, parce que tous les Américains sont, enfin, presque tous sur Amazon. Et deux, c'est la puissance quand même de Amazon pour vendre des produits même peu connus. Et c'est vrai que la triche paye peut-être dans le court terme, mais pas dans le long. Donc, il y avait certaines boîtes américaines qui parlaient, qui étaient aussi extrêmement contentes parce qu'elles voyaient que, justement, il y avait un peu, pour certaines boîtes chinoises, je ne dis pas pour toutes, de la triche derrière.
Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est encore une fois Benedict Evans, parce qu'il parle beaucoup de ces sujets de e-commerce et tout, il dit le modèle d'Amazon, c'est quand même beaucoup un modèle, tu vois, où tout est uniforme, tous les produits sont les mêmes, c'est la même entrée dans la database, les mêmes catégories. Je voyais même moi quand j'y étais, tu vois, je me souviens un des items, c'était vraiment je me souviens la procédure qu'il y avait pour, je ne sais plus exactement, mais pour une certaine catégorie, ils voulaient personnaliser la section commentaires. Écoute, la complexité que c'était en interne, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Et donc et on voit vraiment que Amazon toujours ce qu'ils essayent de faire, tu vois, c'est pas de vérifier eux-mêmes la qualité, tu vois, toujours dans cette idée de nous c'est une étagère géante, on fulfille tout nous-mêmes. Non, nous ce qu'on vérifie, c'est que les commentaires sont justes, Et oui. Une fois que les commentaires sont justes, les customers, ils se débrouillent eux-mêmes oui. pour avoir pour faire leur avis oui. sur le par rapport au produit.
Ils font comme ce qu'ils ont fait sur les bouquins finalement. Mais un bouquin ne peut pas tuer personne et ne peut plus pas blesser personne ouais. non plus. Donc oui, il peut blesser ton âme ou tes yeux, mais ton avis, mais il ne pourra pas blesser physiquement. Donc c'est quand même un peu différent. Mais c'est vrai que finalement, c'est ça, c'est qu'ils te laissent choisir, tu as le long tail et puis c'est les reviews qui choisissent. Alors il faut savoir que quand tu es sur Amazon en direct, hein, pas sur la marketplace, mais en direct, tu peux utiliser ce qu'on appelle Vine, V-I-N-E, où tu payes et tu offres un produit gratuit à des testeurs qui peuvent mettre l'avis qu'ils veulent. Et ça, c'est géré par Amazon directement, mais tu ne peux pas impacter l'avis. Si une personne n'aime pas le produit, elle pleut. Ben, c'est vrai qu'ils ont tendance à ne pas te mettre un 1 s'ils n'aiment pas. Hein. Il ne faut quand même pas déconner. Hein. Je vais dire, voilà, ils te mettront un 3 s'ils n'aiment pas trop le produit. Mais ça sera des belles reviews et c'est noté Vine, Vine Reviews. Mais c'est bien pour commencer parce que sinon, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Il n'y a jamais de reviews parce qu'il n'y a jamais personne qui teste le produit. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser un peu au crackdown de l'algorithme de Google. Vous vous souvenez quand il y avait du SEO et puis tout le monde essayait de gamer le SEO de Google et du jour au lendemain, tout d'un coup, il passait à une autre version et puis ça a détruit aussi plein de boîtes américaines et qui après ont appris à bah, voilà, respecter les règles. Donc Jason Calacanis, on se souvient.
Ouais. Bon, bah, hyper intéressant. Et puisqu'on est en Chine, on va juste faire un petit détour encore par un dernier sujet qui est le fameux 996 chinois. Et je veux dire que j'ai appris des choses. Donc, qu'est-ce que c'est le 996 ? C'est la façon de travailler alors, qui est propre à l'industrie tech en Chine, mais aussi visiblement à plein de choses comme les entreprises de logistique et autres. Et c'est donc la pratique de travailler de 9h le matin à 9h le soir, 6 jours par semaine. Ouais. Donc, ça fait beaucoup, hein, 72 heures oui. par semaine. Et la Cour suprême chinoise, qui est un très bon site d'ailleurs qu'on peut consulter en chinois évidemment, mais aussi en anglais, s'est saisie de toute une série de cas liés aux questions d'heures supplémentaires. Alors, dans des cas bénins, par exemple, enfin bénins, si on veut, mais de quelqu'un qui s'est fait licencier parce qu'il a refusé de faire justement les heures supplémentaires qu'on lui demandait. Et donc, cette personne a gagné. Des cas un peu plus graves, où il y a une personne qui est carrément morte parce qu'elle faisait beaucoup trop d'heures et puis, ben voilà, elle en est décédée. Donc, plus grave. Et bref, toute une série de cas comme ça. Alors, ici, évidemment, on le traduit par maintenant, c'est illégal en Chine. Ce n'est pas que c'est illégal en Chine, c'est juste que tu dois respecter le droit de tes employés, oui. qui est bah, de faire des heures supplémentaires s'ils le peuvent, et pas de manière abusive. Donc, de nouveau, hein, on est dans une période où il se passe quand même, alors c'est vraiment du dehors, mais il se passe des trucs intéressants en Chine en termes de remettre de l'ordre. Et nous, là, on s'est beaucoup, beaucoup intéressé au côté tech. On s'est dit, ah mon Dieu, voilà, la compétition tech et tout ça, l'innovation. Mais il semblerait que ça soit plus profond. Alors, voilà, bon, pour moi, c'est dur de dire si vraiment c'est un mouvement de fond ou bien si c'est business as usual. Mais je trouve ça vachement intéressant. Le 996,
Je ne connaissais pas comme tel, mais c'est vrai qu'il y a des règles. Et puis souvent, on se dit, ouais, les employés ou les collaborateurs chinois, ils peuvent travailler des heures et des heures et des heures. Mais quand on remet des coups comme ça dans la machine, on voit que voilà, il doit faire attention, comme nous hein, en Europe, on ne peut pas faire surtravailler, même des managers, il y a des règles hein, sur les heures supplémentaires, il y a des règles qu'on doit suivre et aussi qu'on doit payer s'il y a des overtime. Donc, tout ça, c'était un peu le Far West hein, en ce moment. Ils ont laissé la tech faire et maintenant, ils resserrent le boulon. Donc, ça faisait plaisir hein, aussi de voir ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la Chine vient plutôt du côté gauche, hein, de la force. Hein. Donc, souvenons-nous, peut-être on l'a oublié ces 20 dernières années, hein, mais ils étaient plutôt communistes, à ce que je me souviens. Donc, ils reviennent un peu et n'oublions pas qu'il y a une votation pour le président chinois l'année prochaine. Donc, je crois que notre ami Xi Jinping est en train de quand même remettre un peu d'ordre là où il devait pour, je pense, être élu l'année prochaine. Donc, je crois qu'il y a quand même des combats là qui sont en train d'être mis en place. Et puis, honnêtement, je ne trouve pas que c'est une mauvaise règle. Des fois, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui abusent et qu'il faut des règles pour que ça s'arrête.
Ouais, et puis ce que je trouve intéressant, c'est quand on lit vraiment sur le site de la Cour suprême, souvent on a envie de se dire, ah, la Chine, c'est tellement différent, mais c'est bien écrit, c'est compréhensible. Ils disent, ben voilà, il y a un abus. Oui, tu peux faire des heures supplémentaires, évidemment, oui, tu dois te mettre d'accord, mais ça ne peut pas être excessif. Et là, le cas du 996, c'est clairement excessif. Donc, alors, c'est vrai que ça le rend pas complètement impossible, mais c'est vrai que le message est très clair qu'en tant qu'employé, tu as le droit de dire non. Et tu ne peux pas être licencié pour ça. Et franchement, je suis content pour eux, quoi.
Oui.
À part si tu as ta propre boîte, je ne crois pas que tu devrais avoir ce genre de truc. Donc, c'est vachement intéressant. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent la Chine, expliquez-nous peut-être aussi, soit sur notre groupe Signal, hein, vous êtes toujours bienvenus, vous nous envoyez un petit mot, info@niptech.com, et puis on vous donne le lien, ou bien sur Twitter, c'est la même chose. Mais bref, il se passe des choses hyper intéressantes. Un petit tour par le monde de la productivité, enfin de la productivité du travail, mais c'est Adobe qui rachète Frame.io. Quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui leur achète quand même pour un peu plus d'un milliard, même un bon poil plus qu'un milliard, 1,3 milliard de dollars pratiquement. Alors, qu'est-ce que c'est ce frame.io et comment on arrive à se vendre à ce prix-là, quoi?
Alors, Frame.io, c'est un ensemble d'outils autour de la production vidéo. C'est un peu le Google Docs, si on veut, mais de la production vidéo. Tu as une timeline donc avec ta vidéo et tu peux mettre des commentaires et tout le monde peut collaborer en même temps. Ce n'est pas vraiment un métier que je fais, donc je ne saurais pas dire à quel point c'est bien ou à quel point c'est utile ou quels sont les trucs vraiment importants, mais c'est un peu ça le truc de base. Et ce que je trouvais intéressant, c'était d'une part que ça montre à quel point la productivité, tu vois, c'est passer d'outils génériques où tu avais Word, Excel, PowerPoint, je sais pas, des trucs classiques, tu vois, SAP ou je sais pas, ce genre de logiciels où on passe, ou même Slack, tu vois, c'est des logiciels très, 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 très généraux, où on passe à des logiciels beaucoup plus targetés pour chaque type de métier, où chaque métier a vraiment ses besoins qui sont gérés par un logiciel. Donc ça, je trouvais ça vachement intéressant.
Mais
Et
juste peut-être pour que je comprenne, donc Frame.io, en fait, c'est un outil qui te permet de discuter avec tes clients et de recevoir d'échanger, de recevoir du feedback, de faciliter ton flow de travail, pas pour toi en tant que pour couper ta vidéo, mais pour collaborer, c'est ça?
c'est ça, c'est un peu le truc de base. C'était vraiment, tu as ta vidéo et tu peux parler, enfin faire des commentaires sur la vidéo avec, alors ça peut être les clients, mais aussi ben juste, tu vois, si tu travailles, si imagine tu as un film de cinéma, parce que ça peut être utilisé par exemple dans le cinéma, où tu vois tous
OK.
les, tu as le, t'as le mise en scène, le gars qui fait la mise en scène, qui dit au gars, ah non, il faut changer ça, machin, tu as comme un Google Docs où tu aurais des commentaires qui viennent sur le côté, qui disent, ah, qui veulent pour faire des modifications. Et donc le
OK.
but, et après ils allaient beaucoup plus loin où tu pouvais carrément uploader les vidéos au lieu de les uploader dans un serveur n'importe lequel, tu l'uploadais directement chez eux. Et donc en fait, tout ce qui était autour du montage, hormis le montage, parce que tu le faisais toujours dans le logiciel comme, je sais pas moi, Adobe, notamment, bah, justement, tu le faisais avec un
Ouais,
logiciel
tu
Adobe,
m'étonnes. Ouais.
comme par hasard, tout ce qui était autour en fait était géré par Frame.io. Et donc c'est un peu le but d'Adobe en rachetant ça, bah, c'est de faire le maillon manquant de cette chaîne.
Vous voyez, c'est un peu comme tu disais, ouais, SAP ou Oracle, qui sont les legacy systems, et puis il y a Salesforce qui se plug sur la partie qui fait du pognon, c'est-à-dire la partie CRM, client, vente, et c'est la partie qui génère l'argent, donc c'est la partie où les gens sont prêts à investir, et puis l'autre, ça devient un peu les tuyaux normaux. Et ben, tu vois, on pourrait se dire, Adobe, c'est le tuyau normal, quoi, le truc d'édite qui existe depuis des années, et l'autre, c'est la partie vente, fun, collaboration, qui a de la valeur finalement. Qui est pas l'autre, c'est le tuyau, l'autre, c'est la valeur, le UI, l'interaction, et qui rend l'utilisation d'Adobe fun. Donc, je parie, j'ai pas regardé, hein, mais je te parie que Adobe a pris de la valeur et a réussi à payer son milliard en un jour de trading.
Possiblement. Et le dernier point que je trouvais vachement intéressant avec ça, c'est quid de l'antitrust. Parce que finalement, si tu penses à la définition des acquisitions et de qu'est-ce qui est interdit, je veux dire, y a pas, tu vois, c'est pas, ils sont pas dans le même marché finalement. Adobe, ils font des logiciels d'édition, et là, c'est vraiment des choses qui viennent, des outils qui viennent à côté que tu pourrais dire qu'ils sont un peu, tu vois, il y a une synergie qui est assez claire, mais c'est pas des concurrents. Le souci, c'est que s'il y a bien une boîte qui allait concurrencer Adobe finalement, bah, c'était eux, parce que c'est tout le reste de la chaîne, c'est eux qui le font, et au fur et à mesure, bah, tu peux les imaginer, ajouter un outil pour faire ceci, pour faire cela, et puis peu à peu, bah, t'as plus besoin tu peux te passer complètement d'Adobe. Et eux, en rachetant ça, bah, clairement, ils tuent ce concurrent dans l'œuf.
Je parlais avec un avocat une fois, allemand, hein, mais très très bon, qui est dans l'antitrust, et puis qui expliquait que finalement l'antitrust, ça dépend de comment tu regardes. C'est comme Amazon, il disait toujours, mais on est seulement 1% du retail, on n'est rien, on est juste le e-commerce, alors qu'ils avaient 50%, après 70%, et puis après 80% du e-commerce et des États-Unis. Mais il disait, oui, mais par rapport au retail total, on n'est rien. Donc si tu prends Adobe, par rapport au monde des softwares, ils sont rien. Écoutez, on est Adobe, on est quelques milliards. Par rapport à Microsoft, tout ça, on n'est rien du tout. Après, si tu prends le monde de l'édition vidéo, en tant que tel, et tu dis où si tu es Adobe, là tu arriveras et on commence à être dominant quand on représente plus de 40% de part de marché, il faut savoir. En valeur ou souvent si c'est en limité, on te sait plus qu'en valeur. Donc voilà. Donc ça peut venir rapidement. Donc ça dépend vraiment avec le lens, avec la loupe avec laquelle on regarde cette problématique. Et je pense qu'actuellement, on ne regarde pas la problématique avec ces niches. On le regarde plutôt de manière générique.
C'est le souci, c'est ça. C'est à quel point tu as besoin de changer cette définition parce que la façon de faire du business change finalement. Tu ne peux pas avoir du business pour 25 logiciels de montage vidéo. Par contre, tu peux avoir des logiciels qui sont complémentaires sur cette chaîne.
C'est intéressant parce qu'Adobe, c'est quand même une boîte qui a l'habitude de racheter. Hein. Alors, je regarde un peu la liste de ce qu'ils ont racheté. Les trois quarts, je ne connais pas. Puis certains, c'est des petits. Mais il y a quand même des connus dans le tas qui sont toujours autour. Et quand on regarde, ça fait tellement de sens. Par exemple, Fotolia, vous vous souvenez, enfin, si vous achetez des stocks photos, bon, voilà. Mais c'est évident que ça complémente leur offre. De manière, c'est facile à upseller quelqu'un qui est déjà dans ton écosystème. Et puis un qui était hyper intéressant aussi, c'est Behance pour justement cette communauté de plus dans le design, etc. Donc c'est un peu c'est pas une sorte de social media plateforme. Vous vous souvenez de Behance? Behance. Quelque chose super beau, quoi. Voilà, justement pour les designers. Donc c'est vrai qu'ils ont des rachats qui sont tout autour de leur cœur de métier, qui sont complémentaires, j'aime bien, parce qu'on comprend leur stratégie.
Quand a été créé Adobe?
Mais quand 1800... non, c'est une bonne question. Il y a 30 ans? Ah non, plus. Allez, moi, j'ai 1994.
1982, je crois.
Ah, joli. Ah ouais, ah ouais, bah, évidemment. Ouais. Dès qu'il y a eu une interface graphique.
Oui. Mais même Photoshop, hein, c'est un truc qu'ils avaient racheté. Tu vois, aujourd'hui, tu peux dire que c'est leur cœur de métier à Adobe. Même Photoshop, ils l'ont racheté.
Ouais, c'est vrai.
Ils avaient Flash à l'époque, non? Eux qui ont créé ce
salaud. Ouais.
Les sites étaient quand même pas mal. Franchement, les sites Flash étaient quand même pas mal. Ça bougeait dans tous les sens. Franchement, on n'en a plus.
Alors ça, on n'en a plus, ouais. Ça on n'en a plus. Bon, on ne peut pas terminer sur la partie-là. On va faire encore la Snip Tech et l'inspiration, mais sans parler de quand même une des nouvelles de la semaine. Je ne suis pas convaincu que ce soit une nouvelle tech, mais bon, on va quand même voir si ça vous parle plus qu'à moi. C'est le cas de OnlyFans. Comment on décrit OnlyFans? C'est pas un social network. Hein. C'est une plateforme pour les créateurs de contenu, voilà. Qui a perdu accès finalement à ses partenaires financiers, en particulier les cartes de crédit, sous prétexte qu'ils ont du contenu adulte à foison, ce qui est objectivement vrai. Hein. Donc voilà, moi le fait que, est-ce que c'est un problème tech ou est-ce que c'est simplement un problème financier, tu vois, est-ce que c'est pour les gens qui font Nip Bank qui font en discuter, est-ce que ça vous parle vous ou vous êtes un peu comme moi, un peu...
Ça me parle à moitié. Je disais avant qu'on commence à enregistrer l'émission, déjà, il y a eu beaucoup de... C'est une des histoires où tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Tu vois, genre, il y a deux semaines, OnlyFans, ils ont dit, OK, on va arrêter le porno sur OnlyFans, sachant que ça devait être, je sais pas, bon, 90% de leur business, tu vois, c'était ça. Donc, personne ne comprend, évidemment. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient... Alors, ce qu'eux ont dit, c'est que leur banque les empêcherait de faire les virements pour payer les créateurs. C'est-à-dire que tu payes avec ta carte de crédit et ensuite OnlyFans vire l'argent aux créateurs et qu'en fait, la banque qui s'occupait de virer l'argent aurait dit « ouais, il faut arrêter ». D'autres disent que c'est Mastercard parce que le souci, c'est qu'ils ont des nouvelles règles pour les contenus pornographiques et ça aurait été problématique pour OnlyFans. D'autres disent encore que le souci, c'est qu'OnlyFans, ils gagnent énormément d'argent mais personne ne veut investir dans leur boîte. Tu vois, c'est problématique si les venture capitalistes ne veulent pas venir chez toi. Enfin, beaucoup de raisons, personne n'en est sûr. Et ensuite, deux semaines après, ils ont dit « Ah, finalement, les gars, on fait marche arrière. C'était trop, on s'est arrangé. On a passé un coup de fil et maintenant, c'est bon, les histoires de banque est réglée. » Enfin, c'est un peu ridicule, mais ouais. Et donc, je ne sais pas si c'est une histoire d'incompétence, tu vois, si c'est juste eux qui ont mal géré le truc ou s'il y a vraiment quelque chose derrière et que, étant donné la débâcle, ils ont réussi, OnlyFans, à avoir du levier, à avoir un peu de force de négociation et ont réussi à quand même passer. C'est dur à dire.
Moi, je pense qu'il y a un angle tech, puisque finalement, c'est quand même une plateforme tech, OnlyFans. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est aussi, on donne un statut à des sex workers qui avant n'en avaient pas. Et c'est vrai que finalement, ils se sont quand même plaints on les a beaucoup entendus, les gens les défendent sur les réseaux sociaux ou pas. Et puis, finalement, voilà, ils ont fait machine arrière. Et c'est vrai que je pense que pendant la pandémie, pendant tous ces gens, types, OnlyFans a été un site qui leur permet de gagner leur argent différemment. Donc voilà, et puis c'est un site où, qui est important pour une certaine frange de la population. Donc voilà, voilà, il y a autant de... Du porn, il y en a depuis le début de l'Internet, du porn, il y en a encore, c'est ça qui génère un des plus grands mangeurs de trafic online. Donc voilà, c'est ça. Après, ce que je trouvais intéressant au niveau tech, je me disais, bon, c'est vrai que d'abord, on dit, ouais, Facebook, ils peuvent se permettre de dire oui ou non. C'est eux qui décident où va le monde. Twitter aussi. Et puis, on voit que ce n'est pas qu'eux. Parce que c'est vrai que les boîtes qui processent le paiement, elles ont le vrai pouvoir. Parce que là, on ne parle pas de juste la visibilité. On parle de recevoir de l'argent. On avait vu ça avec la cannabis industry aux États-Unis où ils ont eu beaucoup de mal. Ils devaient tout payer en cash, enfin tout faire en cash, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à travailler avec le système bancaire. Alors, vous me direz, c'est parce qu'au niveau fédéral, c'était pas
c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est parce que c'était réglé. Un, c'était à l'État.
À l'État, au niveau de l'État et pas, enfin du state et pas au niveau de fédéral aux États-Unis. C'est pour ça. Donc là, il y avait peut-être des bonnes raisons. Mais c'est vrai que finalement, ces gatekeepers sont aussi les banques, sont aussi les types de Mastercard ou Visa qui processent les payments et les PayPal de ce monde. Donc, où s'arrête leur pouvoir? C'est une bonne question.
Ouais, et où ils doivent s'arrêter finalement?
Oui.
Je veux dire, Mastercard, tu as des processeurs de cartes de paiement, tu en as deux, tu vois, globalement, c'est un monopole. Et donc, la question, c'est à quel point on veut qu'eux régulent ce genre de choses? D'un côté, tu as.
Oui, sur la pédophilie, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Tu diras, bah voilà, là, oui, je suis d'accord qu'ils ne le fassent pas, mais sur d'autres, peut-être au niveau porn ou sex worker, qui de toute façon auront lieu et qui ne font rien d'illégaux. Pourquoi les arrêter?
C'est ça. Bon, parce que là, c'est toi, c'est de nouveau, c'est comme Apple et comme tout ça. À un moment, il faut que les règles soient claires. Toi, si eux, ils ont pas, toi, je pense qu'ils s'en fichent de qu'est-ce qu'ils processent. Moi, je pense pas qu'ils ont eu un mouvement interne en disant ça. Ils ont dû lire une régulation d'une certaine façon en disant leur legal counsel a dit voilà comment je la comprends. Donc OnlyFans en fait partie. Dommage pour le cut qu'on se prend, mais c'est comme ça. Et puis après, finalement, toi, je pense que c'est des zones où ce n'est pas hyper clair, visiblement. Parce que si c'était clair, toi, on aurait la réponse. Donc, à mon avis, c'est aussi peut-être des zones d'interprétation de leur propre régulation. Et donc, ouais.
Mais est-ce que OnlyFans est connu en Europe? On n'entend pas parler. Je pense qu'il y a quand même
deux, trois. C'est toujours le truc. Tu vois, genre les gens qui utilisent OnlyFans, tu vois, que ce soit comme client ou comme travailleur, tu vois, tu t'en fais pas trop la pub. Donc,
je pense aussi, t'as raison.
Ouais, j'ai même jamais été sur la homepage.
Ah là, voilà, une des raisons de plus. Ben justement, j'allais y aller.
Non, mais quand tu vois, c'est la homepage, c'est pas ça saute aux yeux, quoi. Bon, ok. Oh well, comme on dit. Intéressant. Oh well. Et puis le côté gatekeeper, je pense que ça, c'est un thème qu'on peut garder pour à suivre un petit peu en filigrane, parce que c'est vrai que ça va venir aussi avec la régulation européenne, vous le savez, pour les boîtes tech. C'est quelque chose dont on va beaucoup parler. Bon, on va passer à la partie Ask NipTech. Je vais présenter la première, avec quelque chose d'intéressant. On a un fidèle auditeur et contributeur sur notre groupe Signal qui a lancé un podcast. Alors, Mike, toi qui es un vieux routinier des podcasts, il nous demande, bon, est-ce que vous pouvez me donner des idées pour que mon podcast soit le meilleur possible? J'aimerais surtout savoir comment le promouvoir au début. Moi, j'ai quelques idées, mais je suis intéressé de connaître Étienne, Mike.
Ouais. Moi, je pense que promouvoir un podcast, déjà, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est de faire du bon contenu. Le bon contenu, on a été assez… c'est d'avoir un bon son, déjà. D'avoir un micro correct, de ne pas faire tout le temps, d'avoir une bonne connexion, de ne pas bouger tout le temps le son, d'avoir vraiment quelque chose où les gens ont plaisir à écouter. Et ça, c'est très important. Ça, je pense que c'est la base de tout. Deuxième, je dirais d'avoir un contenu sympa, un contenu que nous-mêmes, on a envie d'écouter. Finalement, nous, on fait NipTech pour nous, puisqu'on aurait envie d'écouter un truc comme NipTech, donc on le fait. Et ça, c'est important, de faire un truc qu'on aime et puis qu'on sent qu'on a, voilà, qu'on apporte une pierre à l'édifice dans une certaine niche. Troisième chose, être relentless. Pendant des années, on l'a fait chaque semaine. Tu te souviens, Ben? Oui. Chaque semaine. Et on l'a fait, on n'a pas arrêté où on faisait… Pendant presque 5 ans, on l'a fait non-stop. Et je pense que ça, peut-être faites-le pas chaque semaine si vous ne pouvez pas, mais chaque 2 semaines au minimum, il faut faire, il faut faire, il faut produire du contenu, produire du contenu, produire du contenu. Et ça, ben après, on crée une fanbase, on crée des choses, on crée des gens qui nous écoutent. Mais je pense que ça, c'est peut-être les trois choses que je donnerais comme, avant de penser à comment le mettre en avant.
Alors, écoute, je suis d'accord avec toi. Hein. On est d'accord, il faut toujours se dire, j'en fais en tout cas 100. Et puis après, je verrai qui je suis. Tu peux bouger pendant les 100. Mais voilà, il faut pas
c'est
se dire…
C'est deux ans, 100 presque.
J'en fais deux pour essayer. Quoi. Non. Donc ouais. Ça, c'est juste. Mais Abdel, il est bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas donné le lien, mais il n'est pas encore en ligne. C'est Baladocast. Mais vous verrez. Et j'ai écouté le premier. C'est vrai, on voit qu'il est fait pour ça. Il est fait pour ça.
Oui.
Mais l'autre truc, c'est de trouver sa communauté. Et alors, c'est vrai que suivant ce que tu fais, c'est plus simple. Nous, c'est la tech, c'est simple. On a un sens de… Qui sait, enfin, vous êtes là avec nous et ça nous fait monstre plaisir. Puis on a un peu une idée. Et puis quand on se rencontre dans les conférences ou quand on se rencontre, on voit que ça colle. On se reconnaît hein, un petit peu. Ça, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'au début, surtout maintenant où ce n'est pas forcément facile de sortir ou quand on veut le faire en ligne, c'est vrai qu'il faut être assez réactif sur. Aller s'intéresser aussi à ce que font les autres, discuter, poser des questions. Nous, on a beaucoup, beaucoup fait ça au début de Niptech. C'est aussi le début de Twitter, donc on utilisait énormément pour dire « Ah ouais, c'est cool, qu'est-ce que… » Voilà, juste pour engager la conversation. Et ça, je pense que c'est aussi important, quoi. Alors, peut-être aujourd'hui, c'est plus sur Twitter que ça se fait, mais je pense qu'il faut trouver, vivre là où est sa communauté et participer. Je crois que, voilà, il ne faut pas créer du contenu pour dire « Venez écouter, il faut… » Donner, give first, ça je pense que c'était vraiment aussi à nos objectifs. Quoi. Donc voilà, c'est peut-être ma seule contribution. Toi Baptiste, qui a un œil plus frais sur tout ça, est-ce que tu rajouterais quelque chose ?
Non, enfin, sur ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Je pense que Mike, il a raison, le contenu d'abord, et puis après la communauté, elle vient. Tu vois, il faut la faire sur le contenu et pas d'abord la communauté, ensuite le contenu, ça c'est complètement vrai. La dernière chose que je pourrais dire, parce que j'ai aussi écouté son premier podcast qui était très bien, je pense, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il fait des interviews. Et tu vois, pour faire des interviews, je pense ce qui est très cool, c'est essayer de trouver un style qui te va et essayer de conscientiser ça, de dire, OK, quel type d'interview je veux faire ? Est-ce que je veux parler beaucoup ? Est-ce que je veux au contraire laisser mon invité parler beaucoup ? Essayer de trouver des modèles, tu vois, des gens qui ont fait ça et que tu aimes bien ce qu'ils font. Enfin, moi, je dirais dans cette direction, si tu veux t'améliorer, tu es vraiment dans le contenu.
Bon, les interviews, c'est dur. Hein. Ce qu'on fait, c'est, voilà, il faut s'habituer.
C'est dur.
Mais les interviews…
Ça dépend de l'interviewer aussi.
c'est ça. Mais de faire sortir le meilleur de chaque semaine ou chaque deux semaines d'une personne différente… Comprendre son monde. Non, franchement, en termes de challenge personnel, c'est magnifique. Quoi. Mais ouais, peut-être qu'il faut faire 200 épisodes avant de se dire où j'en suis. Voilà, vas-y.
Alors. Un dernier plug, un podcast d'interview en français, je ne sais pas si vous le connaissez et si toi, Abdel, tu le connais, s'appelle Nouvelle École. Il s'est arrêté depuis un certain temps. Mais vraiment, je trouve la qualité de l'intervieweur pour quelqu'un qui avait l'air d'être assez novice, elle était vraiment, je trouve, très, 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 très bonne.
Ok, bah, écoute, tu vas aller regarder ça. C'est toujours intéressant. On avait un deuxième à Sniptech. Hein.
Oui, alors c'était Coolman sur Twitter, encore lui. Il nous disait, il nous parlait de la démo. Alors, il nous dit qu'un certain Marc Z a écouté Sniptech et que du coup, il a fait une démo du Metaverse pour les entreprises et que ça avait l'air trop cool. Est-ce que vous avez vu cette démo ?
J'allais la regarder au moment où on parlait.
Oui.
Mais c'est...
Alors moi, je l'ai vu. Donc, ça commence avec une dame qui met son casque. Hein. Et d'un coup, elle se retrouve en réunion avec Marc et les autres. Alors, vous voyez un petit peu le style Facebook pour ces… Enfin, mais c'est le style réalité virtuelle. Hein. C'est pas un dessin animé, mais ouais, un peu, quoi. Elle se retrouve dans une réunion et alors, ils sont monstres contents, quoi. Je veux dire, clairement, tu vois, regarde, tu es sur une réunion Zoom, tout le monde est triste, tout le monde regarde en bas, on voit que c'est dur. Mais là, tu es dans une réunion dans Metaverse. Non, oui. Les gens sont contents, ils se font des high-five virtuels. Bon, ils se pètent la main contre le mur, mais ce n'est pas grave parce que c'est cool. Et donc, sincèrement, moi, je dis, je veux ça, quoi. Je veux ça, clairement. Et le fait que ça vienne de Niptech, c'est le point, en tout cas. Vous pouvez être pour ou contre le Metaverse pour les réunions de boulot, mais le fait que ça vienne de Niptech, c'est indéniable, vu le timing. Et voilà, vous l'avez dit, ça allait arriver. Donc, moi, je suis d'accord, je souscris à tout. Mike, maintenant que tu as eu le temps de regarder le début de la vidéo.
C'est Mark Zuckerberg sur la gauche.
Oui.
Ouais, mais il a l'air monstre jeune et maintenant il est devenu.
Il a le droit, il est dans le métaverse, on est tous jeunes dans le métaverse.
Il triche comme sur Second Life.
Mais non,
la plupart des femmes étaient en fait des hommes derrière, il fallait savoir sur Second Life. Il y a quoi de différent à Second Life ? Quand je vois ça, je crois que c'est Second Life avec des lunettes. Alors c'est peut-être mieux fait, mais encore, c'est pas si mieux fait que ça.
Tu compares Second Life à la métaverse ? À la métaverse, on va dire la métaverse. Je veux dire. Je sais pas quoi te dire. C'est la métaverse.
Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. En effet. Je dis juste une chose aussi pour la métaverse. C'est bien, hein, mais alors comment tu feras quand tu seras dans le métro en train de checker ton Facebook ou ton Instagram? Tu mettras tes lunettes?
Mais la métaverse est persistante.
Donc elle sera aussi quand tu seras dans le métro sans lunettes.
En fait, bah oui, sur ton téléphone.
Mais ça s'appelle Facebook ou Instagram.
Ouais, t'as pas compris la métaverse. C'est ça le problème. Le problème, il est là, quoi. C'est clair. T'as le côté réactionnaire de la personne qui n'a pas compris la vision.
Ok, j'ai pas compris la vision, mais tout ce que je pense, c'est que oui, mais ça n'a rien de différent que HoloLens. Et puis, c'est quelque chose que de toute façon, on va vivre. Mais on va le vivre, j'espère, pas avec des dessins animés, mais en étant comme nous dans Zoom actuellement, ben voilà, avec des lunettes où on se verra un peu mieux en 360.
À part ça, le truc que j'adore, et c'est le côté qui me rend Mark Zuckerberg sympathique, il n'en a rien à foutre. Parce que oui, c'est vrai que ça ne donne pas envie, ce n'est pas très beau. Et il est là, et il est content, quoi. Il voit que c'est un bon moment pour tout le monde. Et je trouve ça cool. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Baptiste, à un moment, on en a marre de ces trucs trop léchés, Apple, machin. Moi, ça ne me parle pas, quoi. Je préfère les trucs à la Elon Musk où tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire? Ou des trucs comme ça, tu dis, mais le gars, il comprend pas, quoi. Socialement, tu vois, il est inapte. Mais au moins, il vit son truc et moi, j'aime bien. Donc voilà, juste pour ça, je dis oui et bravo et on est content d'avoir contribué. C'est beau. Bon, on va passer maintenant, on peut, à la partie inspiration. Et je vois, Mike, que tu nous as mis un nom. Alors, un nom que je ne connais pas, c'est Henri Lesaux. Donc, oui. L-E-S-A-U-X, Henri Lesaux.
Oui, oui. Eh bien, alors, vous cliquerez sur le lien, puis vous verrez tête du gars.
Quand on clique sur le lien,
c'est vrai. Alors, c'est son histoire Wikipédia. C'est le nom d'une personne qui m'a été transmise par ma tante et je trouvais que c'était assez intéressant, ce gars Henri Lesaux. C'était au fait un moine dominicain qui a vécu en France. Il était breton, je crois, d'origine. Et après, voilà, il avait beaucoup lu sur l'Orient et puis il a décidé d'aller en Inde. Et puis, il a commencé à faire le moine en Inde. D'ailleurs, il avait un nom de moine indien, je ne vous le dirai pas parce que je n'arrive même pas à le prononcer. Voilà, on va l'appeler Henri Lesaux. Et c'est vrai qu'il a essayé de scinder un peu ces deux mondes, ces mondes de l'Ouest et ces mondes de l'Est. Il a essayé de scinder un peu ces deux, le christianisme avec l'hindouisme. Et il a réussi à le faire. Et il a écrit pas mal de bouquins qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, Sagesse, la rencontre de l'hindouisme et du christianisme. Je crois qu'il y en a une qui est très belle, c'est Souvenir d'Arunachala. C'est une montagne assez sacrée en Inde où il y avait un swami très connu qui s'appelait Rama. Il s'appelle souvent Rama. Ramana Maharshi. Qui vivait sur cette montagne pendant 60 ans, donc il l'a même rencontré. Et c'est vrai
que là, on parle entre les années 60 et
ouais, non, ouais, non. Il est parti dans les années 30 et puis il est mort là-bas dans les années 70. Et c'est vrai que je trouvais intéressant
parce qu'il
a écrit en français. Donc quand vous cliquerez, vous pourrez aller lire ses livres en français. Je me suis dit pour une fois, voilà. Et deux, parce que j'aime bien qu'il bridge le gap entre notre monde et le monde indien. Et franchement, il écrit incroyablement bien. Donc, Henri Lesaux.
J'adore. Henri Lesaux sur Wikipédia. Activité principale, méditation et écrivain. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je médite et j'écris. Je trouve ça cool. Oui, t'es ermite, il a l'air monstre intéressant, effectivement.
Il a une tête d'ermite, hein, quand même. Vous n'ayez pas peur.
Il fait plaisir.
Il a une grosse barbe.
Ouais, je pense qu'il avait sa propre métaverse. Mais il était, ouais,
alors il lui, il en cool. avait une de métaverse, je pense. Et je la préfère, lui, à celle de Mark Zuckerberg, si je peux te permettre.
Bon, je conclue, Mike. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu me racontes, que tu es toujours dans ta période orientale. Est-ce que tu as un livre ou quelque chose qui va avec ça?
Je suis en train de lire un livre d'une personne assez connue. Hein, si vous aimez un peu l'Orient, il s'appelait Swami Vivekananda. Qui est la première personne à avoir parlé en 1800, je crois que c'est 87, du monde de l'Inde aux États-Unis. Donc, c'est un des plus connus qui a commencé, en fait, vraiment à en parler, pas seulement en ayant voyagé en Inde, mais il était lui-même indien. Et c'est vrai qu'il a une répercussion encore aujourd'hui, alors que c'était le premier. Et il a écrit pas mal de bouquins. Et je suis en train de lire écouter son complete work sur Audible, qui est très intéressant. Parce qu'en fait, il part de son speech qu'il avait fait, je crois que c'était à Chicago, ou je ne me souviens plus où, au départ, et tout ce qu'il a écrit. Donc, je serai beaucoup plus intelligent 18 heures plus tard.
Il cartonne, hein, de très, 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 très bonnes revues, quoi. 4,9, alors il n'y a que 156 ratings, mais 4,9, même à 156.
On n'ose pas mettre un Viva Cadenda, ça se fait pas.
Ah non, bah, clairement, quoi. Il y a quelqu'un qui a osé mettre 3.
Ah, il y a quelqu'un qui a
Il y a
osé mettre
quelqu'un qui
3.
a mis 1 sur la performance. Ça, c'est pas grave. Et Story, il n'y a personne. Ouais, 2. Il y a quelqu'un qui a. Une personne qui a osé mettre 2. Ouais, une personne. Donc, ouais. Bon, ok, écoute. Alors, vraiment, là, tu nous sors des noms. C'est ça qui est cool. Parce qu'on est tout le temps un petit peu dans les mêmes mondes. Mais alors là, tu nous sors des noms.
Je ne
Ouais,
sors
je.
pas tous les noms parce que sinon après je vais vous faire peur, mais c'est assez cool. En fait, non, non, je continue la recherche, je trouve très intéressant. Et puis bah voilà, ça c'est une autre chose. Alors, je ne l'ai pas trouvé en français malheureusement qu'en anglais encore pour le moment. C'est ça qui est difficile hein, quand on commence à aller dans des bouquins un peu obscurs, on se rend compte que pas tous les bouquins sont traduits. Genre, bah,
Non,
voilà,
mais
le
Henri Le
Calendar
Sceau,
of
ça
Wisdom
c'est.
de Léo Tolstoï, je veux dire un truc qu'il a passé 15 ans de sa vie, Léo Tolstoï, hein, à écrire, bah voilà, il a été traduit aux États-Unis qu'en 1980 et quelques. Et il n'est même pas en français. Donc, finalement, on se rend compte que des fois, les choses obscures, elles sont encore obscures.
Ouais. Alors, moi j'ai deux audiobooks à vous proposer. Le premier. Allez, je vais partir sur un peu la philosophie, les trucs habituels, mais souvent on me demande qu'est-ce que c'est une bonne introduction au stoïcisme. Et là, donc j'en ai lu, voilà, je suis un peu comme toi, j'ai des fois un petit peu de monomaniaque qui se réveille. Et là, il y en avait un nouveau qui est sorti qui était un Great Courses, donc j'étais obligé évidemment d'écouter. Alors, de quelqu'un qui s'appelle Massimo Pigliucci, donc qui est hyper connu, qui est prof de philosophie à New York. Qui est vraiment quelqu'un de très connu dans le milieu, hein, qui est venu philosophe sur le tard, mais voilà, et qui s'intéresse à la philosophie pratique. Et donc, ça s'appelle Think Like a Stoic, Ancient Wisdom for Today's World. Donc, c'est un Great Courses, donc vous pouvez vous attendre, il y a, je ne sais plus s'il y a 24 ou 36 cours, mais très, très cool. Et puis, il prend un petit peu par personne, un petit peu par thème. Donc, voilà, c'est une bonne façon d'apprendre qui c'est Marc Aurèle, qui c'est Épictète, qui c'est Musonius
Est-ce
Rufus,
que tu
des.
apprends quelque chose quand tu écoutes ces courses ou tu connais plus ou moins tout?
Alors, sur les stoïques, j'apprends deux, trois trucs, mais j'arrive gentiment quand même, parce que c'était pas, voilà, sur les fondamentaux, non, j'ai appris deux, trois trucs, ouais. Et toujours, toi, t'apprends toujours, il y a toujours un autre angle, il y a toujours aussi une façon de dire, de revoir un petit peu, alors que tu peux vérifier. Donc, là, je travaille les fondamentaux et c'est un grand plaisir, quoi. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé ce Great Courses. Et si vous dites, ouais, d'accord, mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, j'ai quelque chose pour vous.
Attention.
Et si vous êtes dans votre zone de confort avec ça, voilà, vous êtes de nouveau, bravo, moi, j'y suis pas. C'est the Theory of Everything, The Quest to Explain All Reality. Alors, vous allez dire, ah, ben ça sonne de nouveau un truc un petit peu métaphysique. Alors, là, le côté physique est vrai, ça parle de physique quantique, ça parle de particules et de qu'est-ce qui crée la réalité, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse dans ma quête de comprendre l'universel. Et sincèrement, ouais, je pense qu'on peut l'écouter. Alors, déjà, il faut l'écouter avec souvent, les audiobooks, bah, on peut les écouter avec ou sans le petit fascicule qui va avec dans les Great Courses. Là, il faut absolument prendre le petit fascicule. Ça explique le lien entre l'énergie et la matière. Et sincèrement, en gros, pourquoi on existe, pourquoi la matière existe, c'est simplement parce que l'énergie est prisonnière de tous ces de structures, quoi. Et ce genre de truc, on écoute le bouquin. Alors, lui, il n'est pas en train d'essayer d'expliquer des trucs. Un petit peu métaphysique, hein. Il explique vraiment toutes les particules, comment on les a trouvées, les théories à venir, les théories passées, etc. Souvent, je suis complètement dépassé et j'adore ça. C'est un
J'ai
énorme
une
plaisir.
question. C'est vrai que les atomes viennent de la poussière d'étoiles ou c'est une théorie qui est fausse?
Bah, disons que, enfin, je ne sais pas, là, il faudrait y avoir quelqu'un qui sait, mais si on a de la poussière d'étoiles, si on a un Big Bang d'où tout part, toi, à un moment, tout vient du même endroit, quoi. C'est de la poussière d'étoiles, oui, si tu veux, mais les atomes, ils ont été créés pas tout de suite, toi. Ils viennent un peu plus tard. Tu as le Big Bang, tu as toutes ces particules qui se mettent. Donc, tu as l'énergie, tu as les particules qui viennent. Et puis après, tu as les atomes qui se créent derrière. Alors, et là, je ne sais pas si tu es en millième de seconde ou en seconde, ou toi. Et puis après, ça part, quoi. Mais donc, eux, en fait, quand tu fais aussi ce genre de physique, tu vas regarder tout près du Big Bang, quoi. C'est des trucs qui peuvent pas vivre tout seul. Toi, toutes les questions matière-antimatière, c'est un peu traité, enfin, c'est traité dans ce bouquin. toutes ces questions de neutrinos, ces milliards de particules qui traversent le monde en continu, quoi, mais qui traversent tout et qui interagissent avec presque rien. Ils t'expliquent pourquoi ça interagit avec presque rien. Bref, sincèrement, si vous voulez vous challenger un peu le cerveau, mais avec un truc un petit peu, il y a un côté, enfin, tu t'étonnes pas que des gens comme Einstein, ils deviennent un peu religieux, parce que quand tu regardes ces machins-là, au bout d'un moment, tu touches l'universel. Toi, moi, ça m'intéressait dans le côté Spinoza et tout ça, de réfléchir à l'universalité, et tout fait sens, quoi. Il y a un moment où tout se touche, et puis des fois, après, tu te rends compte que tu comprends rien, puis qu'il faut aller dormir, mais c'est vachement bien. The Theory of Everything, The Quest to Explain All Reality, c'est de quelqu'un qui s'appelle Don Lincoln, et c'est évidemment un great courses. Voilà. Mike, est-ce que tu as une citation ?
Oui, ouais. J'avais les trois citations comme d'hab, et je me suis dit, mais lesquelles vais-je choisir ? Et je dois choisir celle-là parce qu'elle fait plaisir et je l'adore. Elle, c'est la deuxième. Elle va dire, vous êtes prête ? Et prêt.
Oui.
Alors, elle dit, « Our minds are the instruments of our separateness. Our hearts are the doorways to our unity. »
Ou à faire que nos esprits sont les instruments de notre separateness, notre séparation.
Ouais.
Nos cœurs sont les portes de notre unité. Alors là, je dois dire, des fois, je suis d'accord, des fois, je suis moins d'accord, des fois, inspiré, des fois, moins. Mais là, je suis plutôt perplexe.
J'adore rendre Ben perplexe. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé.
Donc, nos esprits sont les instruments de notre séparation.
La séparation
avec le monde, c'est-à-dire qu'il y a un avec le monde.
C'est ce qui nous sépare, sont les instruments de ce qui nous sépare. C'est plutôt comme ça que je le traduirais. Et notre cœur est la porte de notre unité. Et comment tu le vois, toi ? Comment tu l'expliques, Baptiste ?
J'ai un peu de mal, je ne sais pas. Je ne suis pas trop dans cette façon de penser. Et du coup, je suppose que la séparation, tu vois, il faut la prendre comme la séparation avec le monde, probablement, mais... même avec le monde, j'ai du mal à...
Non, mais c'est vrai qu'on est un dans l'univers. On est unis, on est tous unis, on est unis avec tout. Et c'est vrai que quand tu commences à penser, ben, tu as cet acte... Mais c'est vachement intéressant parce que alors, je vous parlerai d'un autre bouquin qui est vraiment... peut-être j'en ai déjà parlé, mais qui est vraiment, vraiment barge sur justement l'idée que... Je vous ai parlé d'un gars qui s'appelle Bernardo Castrup.
Non.
Ça sera pour une autre fois. Sincèrement, je vais tout réécouter parce que ça va exactement dans ce sens-là. Quand tu écoutes, je pense que Bernardo Castrup, il écoute ça, il dit « Bah ouais, évidemment !» Mais c'est vrai qu'on a ce côté finalement de « On n'est qu'atomes, on fait partie de l'univers, on est tout un. » Je veux dire, on est un avec l'univers, mais d'un coup, il y a une cassure qui fait qu'on a de la conscience et on a l'impression de ne pas être un. Et c'est vachement intéressant. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que maintenant, je comprends ta quote, Mike, et merci. Comment tu la comprends, toi ?
Eh bien, c'est une quote de notre ami, l'ancien professeur de Harvard, qui a aussi boosté les psychédéliques dans les années 60 avant de devenir Ram Dass, qui s'appelait Richard Albert. Et franchement, je la comprends comme ça. C'est dans notre esprit, donc our mind. Souvent, mind et esprit, c'est un peu pas le même monde. Je veux dire, notre manière de penser, je veux dire, c'est comme si la connaissance, ben, elle nous sépare. C'est-à-dire, après, on pense que voilà, la connaissance, elle divise. Quand on a notre esprit, on sait que notre esprit va avoir tendance à diviser les choses pour mieux réfléchir. Tandis que quand on réfléchit, enfin, on pense pas avec notre esprit, mais on ressent avec notre cœur, on est plus unis avec la nature, unis avec les autres gens des autres couleurs, unis avec les autres gens d'une autre croyance et tout ça. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là qui parle. En fait, si on réfléchit trop avec notre cerveau, ben voilà, on se sépare les uns des autres. Voilà. Et je crois que c'est plus comme ça que cette quote est à comprendre.
Ok. Bon, en tout cas, c'était une belle quote parce que de nouveau, elle nous fait réfléchir. Donc, tu fais plaisir. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir passé ce moment avec nous. Ça nous a fait très plaisir, comme d'habitude. Et puis là, bah, vu qu'on est à la rentrée et qu'on a repris le rythme, eh ben, on sait maintenant qu'on va se retrouver dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Et on se réjouit déjà. Alors, profitez bien et à dans 2 semaines. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ah, pas éteindre le... Il faut qu'on laisse aller.
C'est fou que tu n'as pas pris l'habitude.
On dit, il n'a toujours pas l'habitude. Il a besoin de lire, et puis ça veut dire que toi, tu dois l'annuler. T'es là, ah.
Non, parce que le truc, c'est j'ai envie d'éteindre quand on a fini l'émission.
Ouais.
J'ai envie, c'est des années que j'ai envie. Est-ce que vous avez des idées de noms?
Moi, j'avais une idée, mais qu'il fallait faire avec 996, mais je ne suis pas sûr. 66, 996, on pourrait l'écrire. Enfin, on pourrait l'écrire. 9, 9, 9, 9, 6. Mais voilà.
Et attaché.
Mais c'est peut-être trop banal.
Moi, ouais, j'aime bien encore. Attends, j'essaie de voir.
Ou on l'appellerait only. C'est...
Non,
on pourrait l'appeler only, puis le nombre d'heures qu'il travaille. Only 74 hours.
Only
you.
Only
you. Vous ne connaissez pas cette chanson. Only
ah,
you.
Putain, ouais, c'est clair. Oh, mais ça, c'est vieux, alors.
Oui, je sais.
C'est qui, c'est Elvis?
Oui, je pense. Mais je me disais, Only You, c'est un peu, c'est un petit clin d'œil à OnlyFans. Mais voilà.
Ah non, non, non. J'aime moins.
Il aime moins.
Only.
Ou 996, hein, c'est pas mal.
Moi, ouais, j'aime bien. C'est assez opaque, c'est assez clair en même temps. Mmh. C'est inaccessible pour les personnes qui écoutent. Donc voilà, ça nous fait plaisir aussi. C'est vrai que parce que sinon, on a eu le truc Tesla. Bon, bah, on va pas prendre là-dedans. Chine, bon, bah, ça fait effet. Femario, ouais, non. Ou alors, on met le nom de famille de ton copain, mais le nom de famille Henri Le Sceau, mais.
Only Le Sceau ou Only Henri.
Only Henri. Ouais. On ne peut pas toucher Henri. Abhi. Ouais. Comment tu dis son nom indien?
Ah, son nom indien. Ouais, c'est pas facile. Abhishiktananda.
Abhishiktananda. Ah bah alors, facile.
Au bout d'un moment. Oui, ça se prononce comme ça. Ça se dit comme ça se prononce. Au bout d'un moment, il y a toujours 25 000 A.
Ouais, le problème, c'est les H au milieu qui font un peu peur aussi. Oui. Là,
mais vu qu'en fait, un swami en Inde, bah, lui, il était moine. Mais en fait, un swami en Inde, dès qu'il devient swami ou dès qu'il devient sannyasine, c'est un moine, en fait, son passé n'a plus d'importance. C'est pour ça qu'il change de nom. Ils peuvent même changer plusieurs fois de nom. Et puis, quand tu leur parles, c'est pour ça que des fois, on se dit d'où ils viennent ces gens, on sait pas, c'est très dur à savoir. Parce que finalement, dès qu'ils passent dans le monde qu'ils ont eu avant n'a aucune importance. Mmh. Et à cause de ça, ils en parlent des fois même pas.
Ah, vachement intéressant. 996
996.
996. Allez, on le garde. On le garde à juger. Bon, bah, c'est beau. Voilà, on a un titre. Pouf. Et donc, on est dans la boîte.
Oui.
Plaisir. Merci et à dans 2 semaines.
Ciao.
Ciao.